Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Blanche-Neige, Daniel Eman et les Tanguis de la critique Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles Éric Nehoff, du Figaro, Pierrot Pierre Murat de Télérama. On parle ce soir de Blanche comme Neige, d'Anne Fontaine, de Tanguy le Retour, d'Étienne Chatiliez, d'Alpha, de Briante Mendoza, de El Reno, de Rodrigo Sorogoyen, mais également d'Alex, le Destin d'un Roi, des Grands Squelettes et aussi de Raoul Taburin. Dans le courrier de la semaine, eh bien Dumbo de Tim Burton à ses fans, comme Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, Tim est enfin revenu à sa maison des rêves en faisant en plus un pied de nez au studio Disney. Un grand Burton, Lola, Bastien, Antoine et Alice Bringuier me demandent en cœur, je dis bien me demandent en cœur, comment ne pas être ému devant ces trois orphelins de mère qui se soignent ensemble de cette blessure ouverte, comment ne pas soupirer d'aise en volant sur le dos de Dumbo comme nous volions enfants sur le dos de E.T. Finalement, Dumbo, c'est le poète de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Allez, sans rancune, Jérôme, il faut dire que ce soir-là, j'étais tout seul à être un peu moins enthousiaste. Mais moi, je n'avais rien consommé avant. Et puis Dumbo a aussi ses détracteurs comme Lorraine Tilliette de Genève. J'ai beaucoup de mal à comprendre que vous l'encensiez au masque après nous avoir fait plonger dans l'émerveillement. Tim Burton nous éblouit par l'ignoble laideur de ses nouvelles réalisations. Dumbo n'échappe pas à la règle. Sinon, eh bien, Asticoté au masque, Rebelle d'Alain de Mauduit a plu à nos auditeurs Michel Mercier-Testard de Gilly sur Isère. Vous êtes des pisse-froids, comment ne pas aimer Rebelle? C'est grossier, oh la belle affaire. La salle dans laquelle j'ai vu le film est sortie heureuse d'avoir ri. Franchement, la bonne humeur, l'outrance font partie du plaisir. Laurent Bertrand de Dijon, je vous trouve bien chichiteux au milieu de tous ces films qui nous plombent le moral. Voilà un film qui requinque le moral. Avec trois pétroleuses, il y a du mouvement, il y a de l'action, du suspense, de l'humour, belle et rebelle, plutôt que moche et remoche. Thierry Buteau salue un humour décapant, des acteurs talentueux, Christelle Feller pense que c'est un film piquant avec quelques belles réparties. Seule Caroline Roux parle d'une farce potache sinistre et Christine Fink d'une comédie qui manque de noirceur, d'intrigue et de fantaisie. Enfin, Décolère contre Synonyme de Nadav Lapide, ainsi qu'un droit de réponse. Colère de Pierre Cusor qui juge le film prétentieux, poseur, présomptueux, ampoulé, vaniteux, arrogant, poseur, etc. Ou de Ludovic Lelarge de Rennes, mais qu'est-ce que c'est que ce nanar pédant et chiant? Je vous raconte pas la gueule décomposée des spectateurs à la sortie de la projo. Au contraire, pour Arnaud Sanquer, Synonyme est une énorme gifle, la forme est aussi puissante que le fond, un ours d'or amplement mérité. Quant au droit de réponse, il nous est adressé par Chloé Lorenzi, l'attachée de presse de Nadav Lapide et de son film donc Synonyme. Au masque et la plume, le 7 avril, Michel Simon a prêté à Yoav, le personnage principal du film, cette phrase. Deux points, ouvrez les guillemets, être israélien, c'est comme avoir une tumeur qui doit être extirpée, fin de guillemets. Michel Simon a insisté et répété cette phrase deux fois. Cette phrase n'existe pas dans le film. Nadav Lapide a été profondément choqué par cette diffamation. Cette position antisémite vient d'un mollah iranien et n'a évidemment, nous dit Chloé Lorenzi, n'a évidemment rien à voir avec les convictions et les sentiments profonds de Nadav Lapide. J'ai transmis évidemment ce droit de réponse à Michel Simon qui m'a répondu « Je n'ai pas le courage de revoir le film pour vérifier l'exactitude de la citation et je m'excuse si je l'ai déformée. En revanche, je m'étonne que Nadav Lapide s'estime diffamé tant son film exprime la haine d'Israël et des Israéliens. Je lui garde néanmoins mon estime pour ces deux films précédents. » Voilà, allez, on commence avec le film qui a reçu la bagatelle de 7 Goya, l'équivalent de nos Césars, et qui dénonce la corruption politique en Espagne. Je veux parler de El Reno, polar de 2h11, signé de Rodrigo Sorogoyen, avec Antonio de la Torre dans le rôle principal, celui de Manuel López Vidal, député madrilène qui doit entrer à la direction de son parti sans cesser de jongler, comme Éric Neuhoff, avec les dessous de table et les contrats véreux, jusqu'au jour où il fait le vide autour de lui et où il est menacé d'être éliminé. Je dois à la vérité de dire, Éric, que c'est toi qui m'as rappelé qu'il fallait que j'inscrive, et tu avais raison.
Tu ne m'en veux pas.
Au contraire, surtout que c'était pour en enlever un autre. Alors, Éric.
C'est moi qui commence. Bah, très bien. C'est un film que j'aime beaucoup, là, qui prouve que la corruption est une vertu, parce que si ça donne lieu à des films comme ça, il faut que tous les hommes politiques touchent des pots de vin, soient corrompus.
On retrouvera ça un petit peu avec la police de chez Mendoza.
Un petit peu, mais bon, enfin. Et là, le film commence de façon étourdissante par une scène de repas où il y a tous ces hommes politiques en train de manger des gambas avec les doigts, l'écran de télévision qui passe des interviews, ils parlent des uns, des autres, ils disent du mal de leurs collègues. On comprend pas bien, mais c'est un tourbillon. Et ensuite, le film se calme un peu et ce gars-là, là, qui s'appelle Manuel López Vega, est très très embêté parce qu'on découvre qu'il a enregistré, on l'a enregistré en train de combiner quelque chose avec un homme d'affaires, et à partir de là, tout dégringole dans sa vie, fini les virées en yacht, fini les Rolex offertes pour l'anniversaire, sa femme et sa fille sont obligés de quitter le pays, de se cacher, et lui, les voisins se détournent dans son parti dont il rêvait de prendre plus ou moins la direction à Madrid, c'est le paria complet, et il veut se venger parce qu'il veut pas tomber tout seul. Et le film se transforme en thriller avec des scènes absolument inoubliables. Il y a un moment donné, une paranoïa aiguë qui règne. Il va voir l'homme d'affaires. Il lui fait croire qu'il y a des micros dans le bureau. Ils vont tous les deux sur le balcon et l'homme d'affaires pète les plombs. Hein. Et le type, en plus, c'est un mélange de Toto, l'italien, et de Gassman. Et c'est formidable. Et il y a une scène absolument miraculeuse qui est comme dans un polar à la Scorsese, où en pleine nuit, il va à Andorre dans une villa chercher des documents qui feraient tremper dans l'affaire tous ses collègues, et il tombe là-dessus, et il y a la fille du gars qui donne une partie, ils sont drogués, il y a les copains, et le coffre-fort est fermé, et c'est une scène éblouissante de panique, et ce type-là est très très doué, déjà dans Que Dios nos perdone, il avait réussi un portrait de serial killer qui violait des vieilles dames, et là on a tout le tableau de la corruption, de la politique, avec un sens du récit, et cet acteur prodigieux qui est le Piccoli espagnol en ce moment, qui est dans tous les films, et on se dit que...
Je me suis demandé si la corruption était plus espagnole que française.
C'est vraiment dommage qu'en France il n'y ait pas de corruption, parce qu'on ne peut pas avoir de films comme ça.
Ah, toi tu réponds, que toi c'est en ce sens-là que tu réponds. Bon. Pierre ?
Moi je suis un peu gêné, alors je suis d'accord, c'est un thriller absolument magnifique, bon, c'est totalement invraisemblable, parce que la scène à laquelle tu fais allusion, où il est piégé...
C'est pas invraisemblable, non.
Ah,
c'est pas invraisemblable.
C'est irréaliste. La façon dont il est piégé, ça ne tient pas. Et quand il est poursuivi, il y a une scène très 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 bien de poursuite où il s'en sort. Parce qu'il est seul, parce que théoriquement, personne ne pourrait le traquer seul. S'ils étaient deux, le film s'arrêterait. Donc tout ça est invraisemblable, mais on s'en fout. Que Dios nos perdone a été vraiment un film absolument magnifique sur l'ambiguïté. Moi, ce qui me gêne, c'est que bon, c'est un anti-héros avec qui on adhère dans sa lutte pour démasquer encore plus pervers que soi, d'accord, je veux bien. Mais finalement, à l'arrivée, on se trouve... Enfin, moi, je suis pour les dénonciations de la corruption. Mais alors là, parce que c'est pas non seulement lui qui est corrompu.
Ben non, c'est ça qui est intéressant.
C'est le parti qui est corrompu. Non, je suis d'accord, Daniel.
C'est invraisemblable.
C'est tout à fait vraisemblable. Et c'est le pays qui est corrompu. Et
tout le monde, oui. Tout
le monde est corrompu.
Mais c'est l'Europe. Non. C'est merveilleux.
Oui, et ben, parce qu'encore une fois, on verra ça à Manille.
Alors justement, hein. Alors moi, c'est pas esthétique. Moi, ça me gêne un tout petit peu, je suis désolé, parce que ça, c'est un film qui est très mode actuellement et qui consiste à dire que tous nous sommes pourris. Quand Pakula faisait les hommes du président, bien sûr, c'était la politique américaine était pourrie, mais il y avait les journalistes qui pouvaient s'en sortir. Quand Billy Wilder attaquait les journalistes étaient pourris, mais il y avait quelque chose qui pourrait s'en sortir. Là, c'est un film que M. Mélenchon et son parti politique, ou Mme Le Pen avec son parti politique, pourraient recommander absolument, dans la mesure où il dirait, eh ben, vous voyez, c'est exactement ce que je dis, tout le monde est absolument comme ça. Alors, moi, personnellement, la corruption qu'on la dénonce, oui, mais cette fascination devant la corruption généralisée, parce que moi je l'ai vu en salle hier, les gens sortaient en disant, eh ben, tu vois, hein, c'est bien ce qu'on avait dit, ils sont tous pourris. Moi, c'est un film qui me gêne profondément.
Daniel.
Moi, c'est un film qui me passionne énormément. Non, je trouve qu'on ne quitte pas ce anti-héros qui devient effectivement un héros avec un acteur qui est tellement...
Il est formidable, parce que personne n'en parle pour l'instant, mais Antonio de la Torre est formidable.
Mais il est extraordinaire. Oui. Et la caméra ne le quitte pas. Cette petite silhouette nerveuse, cette petite démarche qui fuit et qui essaye de se raccrocher à ses privilèges. Oui, tous pourris peut-être. Je signale qu'on ne nomme pas le parti en question. Hein. Bon.
Bah, parce que le pays... Est...
Mais oui, bon, d'accord. Mais effectivement, la façon dont il se raccroche à ce statut espéré, désiré, magnifique, etc. La façon dont tout le monde le trahit, la façon dont lui-même trahit, je veux dire, c'est à la fois un suspense et un thriller avec un acteur, je veux dire, ça dure 2h11, moi je l'aurais revu...
Non, alors pour le coup, je trouve ça un peu long.
C'est très long.
Ben, moi, j'ai pas vu le temps passer à cause de cet acteur incroyable et avec... Et ça n'arrête pas, il y a une espèce de mouvement qui est tout à fait admirable. Moi, je trouve que ce film est passionnant et cet acteur inouï.
Jean-Marc.
Oui, il y a en effet, c'est vraiment un film où il y a un acteur et un personnage. Pour moi, il manque un peu de la mise en scène quand même. Et malgré tout, le film tient grâce à ce personnage et cette idée vraiment très belle qui n'accepte pas le réel. C'est-à-dire qu'il ne s'estime jamais battu. Il est dans un déni tout le temps. Et c'est un personnage qui ressemble un peu au personnage des séries contemporaines. On pense pas mal à House of Cards. Mais moi, je trouve qu'il est pas héroïsé comme méchant. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu minable. Il y a quelque chose d'ordinaire dans
sa... C'est du physique de l'acteur qui est...
Oui, mais l'acteur est vraiment remarquable. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est un peu le côté très répétitif de la mise en scène, cette façon de doper les scènes en filmant des personnages de dos marchant très vite et en balançant de la musique techno. Je trouve que l'énergie du film, elle est fabriquée par des ficelles un peu énormes qui, quand même, pour moi, gâchent un petit peu le plaisir que je prends à l'observation de ce personnage complexe et réussi.
Est-ce qu'il y a sur El Reno des interventions ? Oui, le micro va venir vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Je tenais à mettre en garde les spectateurs. C'est un film qui est très dialogué, mais où on y parle très vite, presque aussi vite que dans certains films italiens. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de suivre l'histoire. Alors moi, le bémol que je mets, c'est au niveau des cascades. Il y a deux cascades à la fin du film qui sont absolument invraisemblables. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc je conseille à ce metteur en scène qui est très fier du rose, qui continue à faire des films très dialogués, mais qui ne fasse pas des films d'action.
Et qu'on y parle plus lentement. Une autre intervention devant. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Je pense que c'est un réalisateur à suivre parce qu'il avait son court-métrage aussi nommé aux Oscars cette année, le court-métrage Madré, et un long-métrage qui, je crois, portera le même nom et qui proposera un registre complètement différent.
Merci de votre intervention. Blanche comme neige, d'Anne Fontaine avec Lou Delage. Isabelle Huppert, Charles Berling, Benoît Poulvorde, Vincent Macken, beaucoup d'autres. Et puis aussi, quand même, très important, n'est-ce pas, Daniel, trois écureuils voyeurs. Mignon.
Ils ont tort, d'ailleurs.
Oh, pourquoi ils ont tort ?
Bah, bon.
Ils sont sur le pare-brise, ils ont...
Oui, parce qu'ils sont dans le film.
Oui.
Une lecture parodique est détournée du fameux conte des frères Grimm. Tout commence dans un palace, un très beau palace, où la jolie Claire, c'est le loup de l'âge, dont s'éprend Charles Berling, suscite la jalousie et la colère de Maud, sa belle-mère et gérante de l'hôtel, comprenez Isabelle Huppert, qui s'est fait un look moitié Garbeau, moitié Glenn Close, mais version Cruella. Elle commandite donc le meurtre de Claire, qui se réfugie dans une maison du Vercors, où elle va séduire plusieurs hommes, dont les jumeaux Damien Bonnard, le violoncelliste Vincent Macken, le libraire sadomaso Benoît Poulvorde, le prêtre, alors là je l'aime beaucoup, le prêtre motard québécois Richard Fréchette, je ne le connaissais pas,
mais il est formidable. Au total, 7 hommes qui ne sont pas des nains. Pendant ce temps-là, la marâtre Huppert n'a qu'un objectif, avoir la peau de loup de l'âge, qui n'en finit pas de son côté de découvrir le désir et le plaisir à l'ombre du sanctuaire de la Salette. Scénario co-signé Pascal Bonitzer, photo très soignée, évidemment, puisqu'elle est d'Evangelo. Musique de Bruno Coulet et un film découpé en 3 chapitres, exactement comme un conte, mais pour adultes, Jean-Marc.
C'est vraiment une catastrophe de mon point de vue. Vraiment, l'affiche est impressionnante. Tu as vraiment eu raison de citer Bonitzer, Angelo. Il n'y a que des gens extrêmement talentueux. Le casting est vraiment fou. Il y a vraiment une partie des meilleurs acteurs français contemporains pour un projet d'une inanité absolue. C'est-à-dire que c'est pas le premier film d'Anne Fontaine que je trouve faible, mais celui-là, je ne comprends même pas quel est le projet. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une incongruité totale. On se dit pourquoi relire le Blanche-Neige à l'aune du contemporain si c'est pour faire un film qui est tellement peu marqué par la réflexion contemporaine sur la condition féminine. Je trouve que vraiment le film est extrêmement tombe complètement à côté de la plaque sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer un peu de sororité justement tout à coup qui surgirait entre la belle-mère et Blanche-Neige. Et là, on revient vraiment à un scénario de la rivalité féminine dans tout ce qu'il y a de plus archaïque. Cette espèce d'adjonction qui est que Blanche-Neige est totalement libérée sexuellement, je vois pas ce que ça raconte du tout. Cette espèce de suite de scénettes en plus éludée sexuelle, je ne comprends pas pourquoi ce film existe.
Daniel.
Oui, c'est un peu laborieux, je sais pas. Vraiment, Anne Fontaine, il lui arrive, je sais pas, dans Nettoyage à sec, qui était quand même d'une très belle perversité, ou dans Les Innocentes, qui était d'une audace bouleversante. Là,
qui était un vrai sujet historique.
Qui était un vrai sujet historique, et on
qui étaient ces religieuses qui ont été violées par.
Bon, donc, je veux dire, Anne Fontaine, c'est pas n'importe qui. Et là, bon, elle s'empare d'une version contemporaine des contes de Grimm, pourquoi pas? Mais elle ne va pas du tout au bout de son intention. Il y a à la fin une danse étrange, un peu lascive entre la marâtre et la belle-fille.
Pas lascive, très violente.
Voilà, oui, mais je veux dire, à la fois lascive et violente, et en fait, oui, effectivement, ça aurait été plus intéressant si la marâtre, en fait, poursuivant de sa haine sa belle-fille, en était amoureuse. Je veux dire, il y a quelque chose là qui manque. Bon, et Loup de l'âge est ravissante, et so what?
Mais vous pensez pas que c'est simplement une parodie, sans être aussi sérieux que vous le dites l'un et l'autre, non?
Non, mais je veux dire.
Il y avait un film dans les années 80 qui s'appelait Elle voit des nains partout, et avec Zabou Breitman, c'était beaucoup plus drôle comme parodie de Blanche-Neige.
Pierre.
Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment bien, moi. Je trouve ça.
Mais moi aussi, je comprends pas très bien la violence.
Il faut prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire en
effet. Bah oui, exactement.
Mais une parodie. Voilà, une parodie. Une parodie amusée, amusante, avec une actrice formidable, amusante, parfaitement. Loup de l'âge est magnifique. Et en plus, moi, j'aime beaucoup la façon d'amener cette haine de la marâtre pour sa belle-fille, puisque c'est un hommage, évidemment, aux Dames du Bois de Boulogne de Bresson, puisque c'est Isabelle Huppert fait semblant d'être indifférente. Elle a un homme qu'elle aime et elle lui dit « Je crois que je suis lasse de toi ». Il dit « Ça tombe bien, moi aussi, je voulais pas te le dire ». C'est exactement ce que faisait Maria Cazares dans Les Dames du Bois de Boulogne. Et c'est à partir de là...
Quand elle imite Garbo en voiture, quand elle est décapotable.
Donc c'est à la fois cinéphile et drôle. Et moi, j'aime bien cette femme qui, justement, découvre... Il n'y a pas besoin de voir elle voit des nains partout. Et je vois pas pourquoi elle tomberait amoureuse de la marâtre, tomberait amoureuse d'elle. Elle découvre la liberté, le sexe oui, mais enfin c'est ça le sujet. On peut pas lui reprocher d'avoir traité ce qu'elle a voulu traiter. Et quant aux hommes, moi je les trouve absolument formidables. McKen
en violence,
hypochondriaque avec un chien qui s'appelle Tchernobyl, c'est drôle comme tout. C'est un film modeste, drôle, plutôt inventif, très classique au niveau de la forme, mais enfin ce déchaînement de
Je sais un peu de ton avis, Eric.
Ah bah là, on est sûr d'une chose, c'est que les Grimm ne paient pas. Hein. C'est affreux, ce film.
Qu'est-ce qu'il y a d'affreux?
Si j'ai bien compris, c'est Blanche-Neige qui se tape les 7 nains, c'est ça la nouveauté. Ben si,
elle se tape. Comment elle voit les 7 nains, ce qui est différent?
Elle les voit, elle se les envoie même.
Et elle se les envoie, et ben les deux sont possibles.
Ça vaut le coup d'échapper à une tentative de meurtre, parce que tout d'un coup, elle veut coucher avec la terre entière. Elle couche même avec des jumeaux, mais elle sait pas que ce sont des jumeaux. Alors donc, cette gourdasse, le deuxième soir, elle s'aperçoit que le type est bègue, elle se dit, c'est pas le même qu'hier. Et il y a une scène, une scène de baisse, debout, derrière une palissade avec le soleil qui passe à travers les planches disjointes, mais qui est vraiment, Joss Jekin n'aurait même pas fait ça dans les années 70, là. Tout est terrible. C'est le Poulvord qui aime se faire fouetter. Là.
Alors, ah, il a le droit.
Il a le droit, mais on voit qu'il est vraiment maso, parce que quand Huppert pousse la porte de sa librairie, il lui dit « Vous avez la beauté d'une madone italienne ». Alors on sent que le type ne sait plus ce qu'il fait. Et tout est comme ça dans ce film. Rien n'a de justification. Lou Delage, elle est très bien, très jolie. Elle sauve un petit peu. Charles Berling en beau-père, un peu lubrique, à la Michel Bouquet dans les films de Chabrol de l'époque, n'est pas mal. Mais c'était écrit avec... je sais pas quoi, une truelle, une fille de 17 ans qui dit à son partenaire « Je suis une page blanche », qu'elle le reste, la page blanche, c'est le scénario.
Mais pourquoi resterait-elle une page blanche ?
Personne ne dit ça. Le curé à moto qui lui dit « La montagne active le sang », ben on dirait c'est pas ça. Quand on voit le résultat. Ah non, mais le film est terrible, c'est un ratage complet. Moi, je trouve Anne Fontaine est un metteur en scène assez inégal, mais là, pourquoi faire ça ?
C'est très réussi.
Blanche comme neige d'Anne Fontaine. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, une réaction. Bonsoir.
Eh bien, bonsoir. Désolé, Pierre, mais j'ai vu le film et c'est vraiment un ratage. Moi, j'ajouterais en remarque cinématographique que ça m'a fait penser les jumeaux au film de Cronenberg, Faux semblant. Ça m'a fait penser aussi quand elle danse, ils ont dû voir le film Pulp Fiction. Ça m'a fait penser quand ils discutent avec le prêtre. C'est des hommes et des dieux.
Oh non, monsieur. Non, monsieur. Enfin bon. Non, oui, enfin. Non,
les dames du bois de Boulogne, vous dit Pierre.
Oui, les dames. Oui, non, mais c'est aussi bien l'Aurore de Murnau et le Comte de Monte Cristo aussi. Non, non. Pardon, monsieur, je vous interromps, mais alors on peut tout dire. Enfin, Pulp Fiction.
Ah oui, oui, oui. Quand elle danse, c'est fait pour la scène, c'est fait pour l'actrice qui dit regardez comme je joue bien, regardez comme je sais faire passer, enfin, je veux dire, des émotions où. Là, c'est pas une émotion, ça serait plutôt une. Enfin, dans son état alcoolique, quoi, là où elle est.
Merci pour votre intervention. D'autres réactions? Non. Eh bien, nous passons à un film où on retrouve Benoît Poulvord. Il y a peu de films sans lui pour l'instant. C'est donc Raoul Taburin, une comédie de Pierre Godot inspirée du récit dessiné du génial Sempé avec Édouard Baer, Suzanne Clément, Grégory Gadebois. Et Poulvord, c'est Raoul Taburin qui répare les bicyclettes à Saint-Céron, dans la Drôme provençale, on est dans les années 60, et qui cache un terrible secret. Le roi du guidon ne sait pas faire de vélo. Voilà, jusqu'au jour où son ami photographe Hervé, c'est Édouard Baer, le met au pied du mur, ou plutôt du pédalier. Voilà, allergique pour le coup au chromo, s'abstenir, Pierre ?
C'est désuet, bien sûr, mais on va dire que ça vient d'une... Enfin, c'est très difficile de porter, on le sait, une bande dessinée à l'écran.
C'est un récit dessiné, hein, c'est pas une BD,
oui,
vraiment.
Oui, voilà, je suis d'accord, pardon. Moi, je trouve que la première partie, paradoxalement, quand les deux stars du film interviennent peu, c'est-à-dire l'enfance, ça rappelle un peu le cinéma d'Yves Robert, je trouve. C'est-à-dire un cinéma très sage, très
c'est
charmant.
Plus voyant, l'image est plus voyante que chez Yves Robert.
Ouais, mais enfin, le Pagnol, quand même, il y avait ça, cette espèce de soin méticuleux aux petits gens, aux petits villages, etc. Et je trouve qu'il y a un vrai charme dans la peur de ce gamin de ne pas savoir monter à vélo. Bon. Poulvord et Édouard Baer sont très bien, c'est pas du tout de leur faute. Je trouve qu'ensuite, lorsqu'ils apparaissent, ça devient un peu lent, un peu lourd. Ah, il y a Grégory Gadebois, justement, dans la première partie.
Il est toujours
partie.
Bien.
Il est toujours bien.
Toujours mais bien.
Formidable.
La comédie française.
Il ne fait rien.
L'ancien de la comédie.
Il n'a rien à dire, à faire, sinon qu'à regarder avec la pipe qui pend sur la bouche, comme ça. Et il est absolument prodigieux. Bon, voilà. C'est gentil, petit, charmant, pas grand chose.
Et les vélos sont tous très bien.
Et les vélos, j'y connais pas grand chose, mais ils m'apparaissent très bien, en effet. Ouais.
Ça n'est pas méchant, c'est un film pour les enfants, mais pour des enfants des années 60, tellement c'est désuet. En plus, on ne sait pas très bien à quelle époque ça se passe, parce que...
Moi, j'ai dit années 60, parce que ça correspond aussi...
Oui, mais c'est un univers un peu à la Amélie Poulain version provençale, hein, ça ne mange pas de pain. Mais la difficulté, comme dit Pierre, c'est adapter sans paix en chair et en os, c'est absurde comme projet, parce que c'est de la poésie, et tout là, tout d'un
alors
coup...
Alors, ça a été fait avec le petit Nicolas. Hein.
Oui, mais c'était pas bien non plus.
Mais non.
C'était même encore pire.
Oui, ça c'est mieux.
Et là, ça rend la chose prosaïque. C'est tellement éphémère, impalpable, sans paix. C'est un génie. On ne devrait pas y toucher. Alors, tout le monde fait ce qu'il peut là-dedans. Les paysages sont jolis. Poulvord fait le job. On voit que Édouard Baer est passé deux jours pour aller boire des verres avec son copain le soir. D'ailleurs, pendant les scènes, on imagine bien qu'ils se disent « On va aller au bistrot d'à côté ». après. Et c'est charmant, désuet, c'est un suspense insoutenable. C'est l'histoire d'un marchand de vélo qui ne sait pas faire de vélo. Et chaque fois qu'il veut avouer...
Je viens de le dire. Hein.
Ouais, oui, et chaque fois qu'il veut le dire à quelqu'un, la foudre tombe. Mais en tout cas, Godot, lui, ne risque pas de tomber de vélo parce qu'il adopte un rythme très, très plan-plan.
Alors, Daniel ?
Bah oui, mais on finit quand même par être attendri.
On s'habitue.
Ben non, mais il y a...
Tout dépend si on a vu Tanguy le retour avant ou après. Hein.
T'as raison. Oui, c'est une question de chronologie, je suis d'accord. Voilà, j'étais contente de retrouver Suzanne Clément, qui est l'actrice québécoise formidable chez Xavier Dolan dans Mommy ou Laurence Anyways. Et effectivement, l'amitié entre le photographe qui s'appelle Figouille et...
Hervé Figouille.
Figouille. Et oui, bah, une photo devient une figouille, comme un vélo devient un tabourin. Bon, d'accord, ok. Mais finalement, oui, c'est désuet, oui, surtout sur le la mise en scène, c'est quand même, il y a cette voix off qui asphyxie le film. Bon, voilà, il raconte ce qu'il est en train de vivre. On aimerait simplement qu'il y ait de temps en temps un dialogue. Voilà. Donc ça alourdit beaucoup le propos. Mais finalement, il y a de l'amitié, il y a de la tendresse, il y a tout à coup un vélo qui s'envole à l'Haïti. C'est gentil. Et puis voilà, on a besoin de temps en temps d'être gentil. Alors moi, je trouve que c'est gentil.
Jean-Marc ne l'a pas vu, je crois qu'il est allergique.
Non, signalons vélo. Une chose, c'est que Sampé, qui était un grand cycliste, a arrêté de faire du vélo dans Paris quand la mairie a créé les couloirs prévus pour.
Absolument. Tous ces dessins sont remplis de vélos.
Non, mais Sampé est inadaptable, c'est vrai.
Raoul Taburin de Pierre Godot, est-ce qu'il y a des interventions sur ce film ou des cyclistes qui voudraient s'exprimer ? Non. On n'avait plus de nouvelles de lui depuis 17 ans et franchement, il ne nous manquait pas vraiment. Étienne Châtelier a pourtant décidé de l'exfiltrer de Chine. Voici donc Tanguy le retour avec Éric Berger dans l'insupportable rôle-titre et ses parents, André Dusselier qui a désormais des problèmes de prostate et Sabine Azéma qui joue au golf avec lui. Il coule une retraite plutôt pépère quand débarque Tanguy, 44 ans, plus dépressif que jamais. Il n'a pas physiquement tellement changé, d'ailleurs, en 17 ans. Sa femme chinoise l'a quitté. Ben, il squatte à nouveau l'appartement de papa, maman. Mais cette fois avec sa fille de 16 ans, Zou, qui prépare le bac. La suite, eh ben, elle est sans surprise, bis repetita, jusqu'au moment où son ex sonne à la porte et demande à Tanguy de lui pardonner. Elle-même bientôt suivie par toute la famille chinoise, qui donne lieu à des scènes absolument mais hilarantes sur les Asiatiques. Pas sûr qu'avec ce... produit, Châtelier retrouve les 4,5 millions de spectateurs, je dis bien 4,5 millions de spectateurs du premier Tanguy. Jean-Marc, celui-là, tu l'as vu à défaut de Taburin ?
Oui, je l'ai vu, oui.
Tu m'as remercié.
Oui, oui. Enfin, je trouve pas ça inintéressant. Mais moi je trouve que je n'avais pas vu le premier Tanguy, donc je ne peux pas me raccrocher au premier.
Le premier Tanguy à Paris.
Ah, pas mal. Non, mais... Ce que je trouve intéressant, c'est de le rapprocher d'un autre film qui est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Parce que c'est vraiment...
Le 1 ou le 2?
Le 1 et le 2. J'ai cité les deux. C'est le même fantasme d'envahissement. Et ce qu'il filme, c'est la peur des baby-boomers français de souche qui ont peur d'être envahis, en l'occurrence par la Chine. Et là-dessus, le début du film sur l'égoïsme des classes privilégiées en France, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas inintéressant, même si on sent bien que Châtelier est totalement solidaire de ses privilégiés. C'est-à-dire qu'on sent que lui aussi, tout ce qui vient de l'extérieur lui fait très très peur. Et ça finit par être le problème du film, c'est qu'au fond, il déteste Tanguy autant que ses parents. Et le personnage de Tanguy, lui, est totalement raté et c'est une pure fonction de scénario. Donc à partir du moment où Tanguy commence à occuper totalement le premier plan du film, le film devient vraiment très mauvais avec des blagues où André Dussolier laisse des clous apparents pour qu'il se prenne le pied dessus. Tout ça est pas drôle du tout et très mauvais. Mais au début du film, il y a quelque chose sur l'égoïsme des classes bourgeoises en France que je trouve assez bien campé. Et il faut dire que Dussolier et Azéma sont vraiment très très bons. Et que c'est quand même assez amusant de les voir tous les deux.
Pierre.
Dans les films catastrophes, on attend la catastrophe, mais on se dit pourvu qu'elle arrive vite, quoi. Voilà, c'est ça. Donc le problème, c'est que ça met une demi-heure à démarrer vraiment. Parce que ce qu'on attend, c'est que Dussolier et Azéma commencent à échafauder des plans pervers pour se débarrasser de Tanguy. Or, pendant 25 minutes, le temps qu'il arrive, qu'il pleure, et ils sont là en disant « Oh, mon pauvre petit, t'es malheureux et tout, on va t'emmener au golf, et on va t'emmener faire du shopping, et on va t'emmener ci, on va t'emmener ça », pendant une demi-heure, il ne se passe rigoureusement rien, sinon qu'on parle de la prostate de monsieur, de la gym.
On ne parle pas, on le voit tout le temps à l'épicerie.
Voilà, oui, oui, on en parle et on le voit. Et la gym de madame et leur appartement, parce que des retraités, enfin s'ils sont retraités, hein, c'est haut de gamme quand même. Oui. Hein, c'est pas des petits retraités. Alors au bout de 30 minutes à peu près, ça commence et du coup c'est un peu bâclé parce qu'ils n'ont plus aucune imagination, ils sont vieux et fatigués, même si et donc forcément tout ça est mauvais au-delà du possible, et même du
solier. Et encore, tu parles pas des coucheries entre la fille,
Oui, mais c'est du vaudeville, des années 50, Boeing, la petite hutte d'André Roussin, enfin, qui faisait les
beaux jours. Je vois qu'il y a des références.
Au théâtre.
Ça rappelle un peu les dames du bois de Boulogne, à un moment.
Ah, parce que tu compares la petite hutte de Marcel Achard aux dames du bois de Boulogne, pas dégonflé, toi. Non, voilà, c'est du vieux cinéma, et je crois pas, enfin, tu prêtes beaucoup à Châtillès, Jean-Marc, en pensant qu'il puisse y avoir une peur de l'étranger et de la Chine. C'est au niveau...
Ah, je pense que c'est le sujet du film. C'est vraiment la peur de l'extérieur. C'est le sujet des comédies françaises populaires aujourd'hui.
Tu es beaucoup trop jeune. Mais si tu as vu au théâtre ce soir, toutes les pièces auxquelles là, je fais allusion, il y a toujours un Mexicain basané ou un Argentin.
Ah non, je pense que c'est possiblement un invariable de la culture française.
Mais oui,
hein,
voilà,
la peur
et
de
donc
l'étranger.
C'est l'étranger. Alors, en général, c'est ou bien l'étranger exotique et madame tombe d'extase devant l'étranger qui arrive, ou la peur. Alors, c'est vraiment des critères extrêmement banals de la comédie.
Ouais. Mais disons que le chinois est l'actualisation de cette figure de l'étranger
voilà.
qui fait peur.
C'est plus un Mexicain, un Argentin, c'est chinois. Mais c'est toujours
aussi. Quand débarque toute la famille à la fin de Chine, c'est limite toute
Ah, bah, encore un film bien inutile, hein, sauf pour le banquier de Châtillès, d'Azéma.
Ça marche ou pas d'ailleurs, je sais pas.
Mais c'est sorti dans 700 salles. Ça va marcher la première. 700 salles.
Et 500 000 entrées première semaine.
Oui, donc les 4 millions, ils vont peut-être les faire.
Le bouche à oreille va être désastreux,
mais le hold-up est réussi. C'est quand même très triste de voir ce cynisme, cette paresse, ce je m'en foutisme, parce que le film n'est ni filmé, ni écrit, ni joué. Vous dites que Dussolier et Azéma sont bons.
Même pas.
Ils ont un petit peu honte, on voit, hein, parce que les personnages sont quand même tellement caricaturaux. Alors, Dussolier perd la mémoire et il a tout le temps envie de pisser. Elle va tout le temps attendre son coach. Éric Berger, Tanguy, qui joue comme une patate, tout ce qu'il sait faire, c'est entrer en short le matin en bâillant dans la cuisine. L'appartement qui est censé être le lieu où tout se passe, il n'y a rien qui traîne, ça a dû être tourné.
Il est chic, hein, l'appartement.
Oui, mais
vaste et chic.
Ça a été tourné dans un magasin Ikea un jour férié. C'est entièrement vide, on n'y croit pas une seconde. Non, mais c'est affligeant, c'est triste. C'est pas que Châtillès, ce soit Billy Wilder, mais à ce stade-là, si ça marche, il va y avoir le 3, il va venir avec son petit.
Dans 15 ans, on a le temps.
On sera mort, tant mieux.
Daniel.
Parce qu'on aime Sabine Azéma, on aime André Dussolier, on aime bien Éric Berger. Donc.
Non.
Je dis, on aime bien.
Il faut déjà savoir qui c'est.
Alors, quand même, le premier, Tanguy, c'est quand même extraordinaire, un film dont le titre devient un mot...
On dit un tanguy pour les mômes qui ne veulent pas quitter.
Comme Kevin.
Devenir un nom commun pour un titre de film, c'était quand même énorme. Bon, alors là, effectivement, 16 ans après, les aigreurs de Sabine Azéma sont plus violentes et la prostate d'André Dussolier plus exigeante. Voilà. Mais effectivement, moi, ce que j'ai éprouvé... C'est une tristesse. Voilà, j'ai été triste. Je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ce film-là? Alors, évidemment, pour la promo de ce film-là, tous disent, oh, quelle régalade! Oh, qu'est-ce qu'on était contents! Eh ben, ça se voit pas à l'écran. Voilà. Et donc, j'ai éprouvé toujours une énorme sympathie pour Dussolier et pour Azéma, que j'adore. Et j'attends leur prochaine...
Mais est-ce qu'on les aime tous? La question n'est pas là.
Oui, mais voilà. Donc, je te dis, le sentiment qui a prévalu pour moi, c'est une tristesse. J'ai trouvé ça triste.
Puis tout le monde a des besoins, des fins de mois difficiles. Donc, on peut pas leur reprocher de tourner dans Tanguy, le retour Étienne Châtelier. Réaction peut-être sur ce film? Non? Quelques Tanguy peut-être peuvent s'exprimer, non? Non. Alex, le destin d'un roi du Britannique Joe Cornish, un film de 2 heures, inspiré de la légende arthurienne où de nos jours un écolier de 12 ans, c'est Alex, le petit Louis Serkis, voit sa vie bouleversée lorsqu'il découvre dans un chantier de construction Excalibur, l'épée magique du roi Arthur. Choisi, pour ne pas dire élu, Alex donc va réunir une équipe de chevaliers pour vaincre, aidé par Merlin, la maléfique Morgana qui est venue du Moyen-Âge avec ses trolls pour détruire le monde. Morgana, c'est Rebecca Ferguson. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Theresa May quand elle est en visite à Bruxelles. Il y avait
Ah, ou Anne Hidalgo en ce moment.
C'est ton point de vue. C'est donc la légende arthurienne version Harry Potter et filmée, il faut le dire la vérité, avec les pieds. Mais peut-être vous aimez ça, Eric.
Ça n'est pas un film pour enfants, c'est un film d'enfants. C'est pas si mauvais que ça. Non, ce qui est intéressant, c'est que le héros, c'est pas le joli garçon de la classe, c'est un type un peu boubou, là, c'est ingrat. Alors que le méchant de la bande, lui, c'est le petit blond mignon. Et ce côté héritier du roi Arthur qui peut déterrer l'épée Excalibur dans un chantier à Londres, c'est pas si mal que ça. Les trucages, les effets spéciaux sont très très bien faits. Il y a des chevaux en flammes, il y a des batailles interminables. La mère est très marrante aussi. C'est un peu un sosie de Frances McDormand. Et le film montre bien ce que c'est que le Brexit et ce qui va se passer pour l'Angleterre là après. On peut y aller un dimanche après-midi de pluie si on passe devant le cinéma et qu'on aime les Esquimaux et le pop-corn en gros.
Daniel ?
Je trouve qu'il y a un vrai sujet, mais que finalement, effectivement, on ne vit pas cette aventure comme elle devrait nous transporter. Voilà, c'est tout petit, tout faiblard, et il y a quand même deux personnages que je sauve et que je trouve admirablement traités. C'est Merlin, qui s'appelle Angus.
Merlin, c'est Angus Imrie.
Imrie. Et alors, effectivement, l'idée d'avoir un jeune Merlin, et puis tout à coup, il éternue, et c'est le vieux Merlin, il y a tout à coup un petit côté enchanteur, et j'adore le personnage de la Dame du Lac, qui apparaît dès qu'il y a un peu d'eau, mais dans toutes les formes, et elle est très très drôle. Donc il y a des personnages qui émergent de ça, et le petit garçon, il n'est pas très expressif. Oui, d'accord, il arrache l'épée Excalibur d'un rocher, il y a ses méchants copains qui deviennent ses chevaliers. Tout ça est un vrai vrai sujet, mais je trouve que la réalisation est faiblarde et s'évapore.
Jean-Marc.
Moi, je trouve ça vraiment charmant. Assez touchant. C'est un film qui pourrait surfer sur la nostalgie des années 80, parce que ça fait quand même penser à au moins 25 films produits par Steven Spielberg dans les années 80, de Goonies, Le Secret de la Pyramide. Enfin, il y a énormément de films comme ça sur des groupes d'enfants. Et c'est très à la mode aujourd'hui, de la série Stranger Things à tout ce que fait J.J. Abrams. Mais ce cinéma nostalgique, il est très très rusé et la nostalgie doit clignoter énormément. Alors que là, ce qui me touche assez, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de premiers degrés. C'est-à-dire qu'il refait des films qu'il a dû adorer dans son enfance, mais vraiment sans du tout faire des clins d'œil qui s'y réfèrent de manière très précise, sous la forme de la citation. En ça, je trouve le film assez habité. Et moi aussi, j'ai adoré le personnage de Merlin qui
habité.
Fait. Ah oui, moi, je sens vraiment un enfant amoureux de son objet, en fait, qui est aux commandes du film.
Pierre.
C'est long, c'est lent.
Il crache sur Blanche comme neige, il trouve
c'est,
plein de
c'est
vertus
banal.
Alex le
dit. C'est laid, c'est moche. Vous avez parlé d'Harry Potter. Moi, ça m'a plutôt rappelé, mais je sais pas. Plutôt le Club des Cinq, enfin, c'est ce...
C'est pas mal, le Club des Cinq.
Oui, oui, non, d'accord. Mais, enfin,
mais pas du tout Boulogne, hein, pas du tout.
Pas du tout. Ou alors, ça m'a échappé, parce qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Il y a des tas de références que tout le monde fait, mais qui m'échappent.
C'est tous les, vraiment tous les...
Non, mais enfin, voilà.
Les gens d'Arthuriennes, hein.
Enfin, Merlin, c'est à peine drôle. Enfin, bon, il est jeune, et puis il éternue, il est vieux. Oui, d'accord. Quatrième fois,
c'est ce qui nous arrive à tous.
Oui, oh là là. Et surtout moi, actuellement, c'est un peu...
Il a un t-shirt Led Zeppelin.
Oui, absolument. Morgan est épouvantable.
Theresa May, je vous dis.
Oui. Non, enfin, franchement, c'est deux heures de ma vie pour ça. Ah non.
Alex, le destin d'un roi de Joe Cornish. Allez, Alphas White to Kill de Briantema Mendoza, le réalisateur philippin de Kinate, qui avait été pris de la mise en scène à Cannes en 2009, de Serbie. Et de Marosa, et c'est avec notamment Alain Dizon, Elijah Fillamore, Baron Gessler, fidèle toujours à sa méthode et à une manière très physique de filmer, parfois un peu à l'arrache, et fidèle aussi aux deux versants de Manille, les bidonvilles et les buildings, la misère et l'opulence. Mendoza signe ici une sorte de docu-polar sur la lutte anti-drogue. Parenthèse quand même, je rappelle que l'incontrôlable président de Duterte n'en finit pas d'exhorter les Philippins, je dis bien, à abattre eux-mêmes les trafiquants. Et il en a, c'était il y a un an, je crois, il en a appelé même à Hitler pour, je le cite toujours, massacrer les 3 millions de toxicos à Manille.
Sympa, oui.
Voilà, c'était le charmant président Duterte. Bref, droit de tuer, c'est justement le sous-titre de ce film qui suit en caméra portée une opération de commando menée contre un baron de la drogue. Et ces hommes de main, tous sont exécutés par les flics, dont un officier ribou, c'est donc le rôle d'Alain Dizon, qui récupère la drogue, en fait la drogue c'est du chabou, c'est la coke du pauvre, pour la revendre avec la complicité de son jeune indique. Et on va vite apprendre que ben tout le monde chez les flics est corrompu, un peu comme en Espagne. Cela dit, moi il y a deux, trois choses qui m'ont plu, qui ont un peu adouci le climat, c'était les différents modes d'acheminement de la drogue là-bas. Alors, il y a les pigeons voyageurs, évidemment, ça c'est facile. Dans certains fruits mûrs, ça c'est une des premières scènes du film. Et puis alors, évidemment, c'était évident, c'est dans les couches culottes qui servent donc à passer la drogue. Jean-Marc.
Moi, je trouve ça vraiment très bien. Brian T. Mendoza, c'est un cinéaste dans lequel j'ai beaucoup cru il y a 10-15 ans. Ses premiers films étaient vraiment très impressionnants. On avait l'impression d'avoir découvert un nouvel auteur majeur du cinéma contemporain. Puis j'avais un peu lâché le fil dans les années 2010. Et là, j'étais assez bluffé par sa virtuosité de mise en scène. Ah oui. Je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux depuis au moins une dizaine d'années. Et effectivement, on pense beaucoup à El Reino. C'est le même sujet. C'est la même vision un peu nihiliste, comme dirait Pierre, de la société. Mais je trouve que c'est vraiment incarné par du cinéma de façon beaucoup plus puissante, et la bascule en cours de film qui fait que un personnage dont on pensait qu'il serait le personnage héroïque du film devient plutôt un repoussoir, et dans un autre personnage prend le premier plan, je la trouve extrêmement habile scénaristiquement et vraiment très réussie. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose qui vient presque de John Woo dans ses plans de pigeons, dans la manière de filmer des films d'action. Il y a une sorte de lyrisme qui vient un peu du cinéma de Hong Kong des années 90 que Mendoza, il y a l'injecte une dimension de critique sociale qui n'était pas dans ces films-là, et cette manière d'allier le lyrisme du thriller asiatique avec un cinéma beaucoup plus réaliste et d'investigation
parce
sociale, c'est
on n'a jamais si bien vu que dans ce polar ce qu'étaient les deux mondes à Manille et plus généralement d'ailleurs dans le pays.
Il y a une grande acuité dans l'observation des rouages sociaux d'une société.
Pierre.
Eh bien, moi, quand je suis sorti, je me suis dit, oh, c'est un film de plus de Brian T. Mendoza, un petit peu banal, peut-être. Et puis, je me suis renseigné, j'ai appris que, donc, il avait été, pas compromis, mais on lui avait beaucoup reproché, en tout cas, de se rapprocher beaucoup de ce président Duterte, qui avait donc des méthodes plus qu'expéditives.
C'était effrayant.
Voilà. Et donc, moi, j'ai pris ça, et du coup, le film m'a intéressé beaucoup plus que quand je suis sorti, comme une sorte de réponse à ça. C'est-à-dire qu'en effet, oui, bien sûr, il y a la corruption, mais il y a un regard, toujours, qu'il porte sur... C'est pas du tout manichéen. Ce que je trouve bien, c'est qu'on retrouve son humanisme, c'est-à-dire qu'il y a les petites gens, là, le flic et son indique, qui ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne trafiquent pas. Et puis, à côté de ça, il y a les flics de Duterte qui flinguent n'importe comment, n'importe qui, à tout va. Et donc, il fait une grande différence là-dessus. Et je pense que comme réponse aux attaques auxquelles il a été soumis, comme quoi il était trop indulgent avec ce président, se retrouve parfaitement dans ce film.
Eric ?
Je suis un peu comme Pierre. Quand je suis rentré, je me suis dit, encore un film de Mendoza, puis c'en était un. Parce qu'on commence à être vraiment en terrain familier avec c'est presque trop maintenant, parce que cette caméra qui bouge tout le temps, cette lumière où on voit pas
cette caméra qui bouge tout le temps quand il y a l'intervention commando dans le...
Non, mais c'est
bien. Ça fonctionne,
c'est
bien, hein. On est avec eux, hein.
Ça manque un petit peu de surprise, et tu dis que ça n'est pas manichéen, et pour cause, parce que c'est le film où l'indique est une ordure, le flic est pourri, mais ça pourrait être de braves gens, parce que l'un va à la messe avec sa famille le dimanche et va aussi aux parents d'élèves, l'autre a un bébé qui doit nourrir, mais heureusement il lui met des couches et il planque la drogue dedans, comme le disait, et on attend la fin et elle arrive exactement telle qu'on l'avait prévu, et c'est un petit peu répétitif et ça donne pas envie d'aller à Manille, parce que
la fin n'est pas évidente, contrairement à ce que tu dis.
Non. Oh bah si, c'est presque une fin à l'américaine,
c'est une fin. Daniel.
Effectivement, dès le titre, Alpha, the right to kill, on se dit qu'il n'y a pas grand monde qui finira le film. Et quand même, il a ce génie d'immersion dans Manille, qui est quand même une chose sur le
plan... La nuit, beaucoup la nuit.
Et cette fois-ci, ce détournement vers la famille, c'est-à-dire le contrepoint familial. Je veux dire, je trouve quand même que c'est un film superbement mis en scène. Et
puis 1h30, hein, c'est très rapide en plus.
C'est rapide, c'est un vrai thriller. Voilà, on accompagne ces gens-là, on sait qu'ils vont mal finir, et c'est quand même remarquablement foutu.
Absolument d'accord. Alpha, donc, de Brillantema Mendoza. Rapidement, on termine avec Les Grands Squelettes, le 4e film de Philippe Ramos, qui en doit Jeanne Captive, avec Melville Poupeau, Denis Lavant, Anne Azoulay, Jacques Bonafé, Jean-François Stévenin. Il n'y a pas Benoît Poulevard, je pense. Et où on voit des femmes et des hommes de tous âges, 13 au total, errer dans Paris, comme le fait souvent Eric d'ailleurs, faire entendre leur monologue intérieur, leurs souvenirs, avec des questions éternelles sur l'amour, l'infidélité, la jouissance, la violence. Scène nette du film étant relié par les fragments d'un discours amoureux de Barthes. C'est un format tout à fait, pour moi, inédit, 1h10. Eric ?
Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement, dans 16 ans, on n'aura pas Les Grands Squelettes, le retour. Parce que là, c'est vraiment le pompon, là, ce que tu nous as filé cette semaine. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore tourner des films comme
t'avais,
ça.
Tu avais aussi Just a Gigolo aussi.
Mais je suis sûr que c'est mieux.
Non, j'ai vu la bande-annonce.
Non, parce que là, c'est quand même des gens qu'on voit bouger un petit peu, filmer, et ensuite photographier ou immobile à l'écran, en train de penser à des trucs absolument sans intérêt. Il y a un type qui tombe dans la rue en allant au boulot, il y a un gamin qui se masturbe dans une cage d'escalier. Alors comme la parité est à peu près respectée, il y a aussi une fille qui se caresse sous les draps. Il y a Stévenin qui va dans sa cave compter les cartons dont il ne sait pas quoi faire. Il y a des tables de café qu'on voit comme ça, vides ou avec quelqu'un assis. Il y a des chaises de jardin. Il y a une fille qui fait des longueurs dans la piscine. Alors j'ai pensé que c'était peut-être allégorique, que c'était une image du film, ça, la longueur malgré 1h10, parce que c'est... Et à la fin, il y a Denis Lavant qui, tout d'un coup, se réveille et dit « Putain, qu'est-ce que je fous là ?» Et j'ai eu l'impression qu'il m'avait piqué le dialogue, là, parce que c'est un film tellement démodé, pseudo-intellectuel, paresseux, que ça va être un truc qu'on pourra voir avec des copains le dimanche soir pour rigoler.
Mais on a aimé Ozarok, je pense, non?
C'est fait pour ça.
Pas mal, mais enfin, je trouve le film intéressant, mais je suis surtout sidéré par Eric. On a l'impression que t'as jamais lu Nathalie Sarrote, que tu découvres à chaque fois ce que c'est que la modernité.
Et je n'aime pas Nathalie Sarrote.
Donc, faut savoir, effectivement, que quelqu'un qui détesterait et le nouveau roman, et Antonioni, et le cinéma de la Cavalier.
Ne touche pas à Antonioni là-dedans.
Écoute, franchement, on pourrait rire des films d'Antonioni comme tu viens d'essayer de rire de ce film. Enfin, c'est vraiment extrêmement poujadiste, ce que tu viens de faire.
Et moi, c'est un compliment pour moi.
Je sais.
Tu vas dire populiste.
J'aurais pas dû le dire, je regrette déjà.
Mais putain, qu'est-ce que je fous ici?
Le film, il est vraiment intéressant, et c'est comme une sous-conversation de Nathalie Sarrote qui serait filmée par Alain Cavalier. On peut détester ça, mais je trouve que ça trace quelque chose d'extrêmement original, de très personnel, un peu inégal, mais il y a vraiment des moments fulgurants, comme à mon avis le plus beau moment, c'est lorsque Jacques Nolot imagine un dialogue à partir de deux chaises vides. Il y a vraiment un moment de grâce poétique inouïe, et cette idée de suspendre comme ça un flux de conscience par des images arrêtées et tout à coup des monologues intérieurs, c'est vraiment très beau, et ça reproduit exactement ce qu'on peut ressentir lorsqu'on décroche de la réalité pour se plonger en soi-même, dans ses pensées. Et le film a réussi à capter ça, ce que c'est que l'intériorité.
C'est ce qui m'est arrivé pendant le film, de penser à autre chose.
Daniel ?
Oui, c'est des scénettes, des vignettes, et c'est assez fascinant. Bon, l'onanisme est à l'honneur, il y a vraiment une sensualité, avec un décor complètement neutre, je veux dire.
C'est pas du Mendoza, tu as raison.
oui, non, mais effectivement, il y a le contraste avec la rigidité des décors et la sensualité des personnages qui rêvent. Moi, je trouve ça presque expérimental.
Mais ce que j'ai pas compris, c'est le titre du film.
Oui, oui.
D'abord, on dit pas, t'as vu Les Grands Squelettes, on n'a pas, tout, on n'a pas.
Ben non, vraiment... ça donne pas envie.
Non, mais surtout, je comprends pas le sens que ça a.
Mais, peut-être.
Non, genre, non plus.
Ben non, moi non plus. Mais bon, c'est.
mais... Parce qu'il y a un os. Hein.
Ce sont des gens.
Sortez-le.
Non, mais moi, je voulais ajouter un mot.
Non, tout va bien.
Je redoutais être comme toi, c'est-à-dire m'embêter beaucoup avec dans ce cinéma pseudo-intellectuel, et je trouve que c'est un cinéma, au contraire, très sensible. C'est sur la solitude.
Il y a à côté d'âme du Bois de Boulogne, mais en...
Et qu'est-ce que tu as pour les dames du Bois de Boulogne, je voudrais savoir. Tu l'as revu récemment?
Non, c'est une plaisanterie.
Ah, c'est une plaisanterie. Oui. Bon, bon. Donc, c'est pas les dames du Bois de Boulogne. Encore qu'il y a une rigueur toute bressonienne.
Mais oui.
Dans certains moments, il y a une rigueur. Je pense que l'adolescent qui se dénude et qui se masturbe, c'est tout à fait un film de Bresson. Tu as tout à fait raison, Jérôme. Donc voilà. Je trouve que il y a beaucoup de sensibilité. Le sketch de Nolo, en effet, qui imagine une histoire avec deux jeunes. Melville Poupeau, justement, qui est quitté par sa femme et qui s'effondre, enfin, qui tombe au sens propre du terme dans la rue. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'en effet, il y a des photos et brusquement qui s'animent. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais.
Ça s'appelle du cinéma.
Non, mais oui, mais justement. Mais oui, mais non, c'est pas idiot ce que je dis. Parce que brusquement, il y a des photos et brusquement tu te dis, mais ah, tiens, comment ça se fait qu'après ça bouge de l'autre côté? Parce qu'il alterne.
Il y a
justement.
L'inverse aussi.
Mais non, et aussi, mais bien sûr que oui. Et c'est ça qui est absolument fascinant.
C'est un miracle.
Mais non, tais-toi. Il y a exactement ça. C'est ça qui est assez fascinant. C'est le moment où, brusquement, on se dit, ces personnages immobiles, en fait, ne le sont pas. Eh ben non, c'est pas si mal que ça.
Non, mais intéressant, oui, mais fascinant, c'est peut-être beaucoup.
Fascinant, pour ceux qui sont de bonne humeur, comme j'étais quand j'ai vu le film, voilà.
Voilà, les grands squelettes, donc, et c'est Philippe Ramos. Allez, un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Daniel.
Formidable exposition lorsque Fellini rêvait de Picasso à la Cinémathèque française. C'est un mariage qui n'est pas du tout usurpé et que cette exposition démontre avec des dessins et des tableaux de Picasso confrontés à des plans de Fellini. Et c'est formidable, les rêves, les fantasmes, le cirque, l'opulence des femmes. Enfin, c'est vraiment une exposition exemplaire.
Et le catalogue est remarquablement fait.
Le catalogue est remarquablement fait. Les clowns et Prova d'Orchestra, ce petit chef-d'œuvre, sont repris, et pas seulement à Paris, dans 11 villes de région. Et donc, vraiment, il faut essayer de toucher du doigt cette exposition magnifique.
Le conseil de Jean-Marc.
C'est deux reprises, deux chefs-d'œuvre du cinéma américain des années 50 qui ressortent à peu près en même temps, ce qui est une coïncidence, mais ça fait voir à quel point ces films sont proches. C'est Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk et House by the River de Fritz Lang, un mélodrame, un film noir, et surtout deux grands films de critique sociale et politique de l'Amérique, par deux cinéastes européens immigrés et deux très très grands films de mise en scène.
Le conseil d'Éric.
Un tout petit livre, Les portraits de François Truffaut par Liliane Ross, la journaliste du New Yorker, qu'il a rencontré tous les 5 ans entre 60 et 76. Et c'est très très intéressant et rigolo parce que c'est pas du tout le journalisme à la française. Elle décrit comment il est habillé, elle dit tiens, il a pris un petit peu de ventre, elle dit qu'il fume des Celtiques. Et il y a déjà tout Truffaut là-dedans. Il annonce les films qu'il va tourner, il dit qu'il préférerait ses films s'ils avaient été faits par quelqu'un d'autre. Et, elle décrit son costume. Alors à un moment, il arrive en smalto dans les années 70 et il lui dit oui, j'ai abandonné Cardin depuis que j'ai vu qu'il avait acheté un théâtre et qu'il l'avait appelé l'espace Cardin. Et il met very vanity, comme il parlait anglais comme une vache espagnole. Et il a appris l'anglais devant les audiences du Watergate quand il était aux États-Unis. Et à l'époque, en France, il n'y avait pas la télévision couleur. Du coup, quand il était là-bas, il tournait le bouton pour que l'image redevienne en noir et blanc. Et ça, c'est déjà presque une séquence de Truffaut.
Alors, il faut prévenir quand même les auditeurs, c'est un
tout petit livre chez Carlotta, 5
et
euros.
Je me répète, parce que je l'ai déjà évoqué à cette tribune, mais lisez les chroniques, même si on ne partage pas leur avis, l'ensemble des chroniques publiées par Truffaut dans Art, qui viennent de paraître chez Gallimard. Le conseil de Pierre.
Alors, deux conseils très rapides. En DVD d'abord, chez Rimini, la réédition d'un film magnifique d'Arthur Penn qui s'appelle Miracle en Alabama, qui est une gouvernante qui essaie d'apprivoiser une enfant sauvage qui est à la fois sourde, muette, voilà. Et c'est splendide. Anne Bancroft et Oscar, magnifique. Enfin, c'est un film absolument sublime.
Et puis les Dames du Bois de Boulogne aussi, qui ressortent.
Je ne cesserai jamais
en dessin animé
de recommander les Dames du Bois de Boulogne. Et après, donc, et le deuxième conseil, mercredi prochain va sortir un film de Christophe Pellet, qui est un auteur dramatique, qui avait fait notamment Loin de Corpus Christi et puis Eric von Stroheim, qui avait mis en scène par Stanislas Tournet. Et là, il a tourné un film qui s'appelle Aujourd'hui Rien, qui est une méditation sur Cesare Pavese et Jean-Luc Lagarce. Et c'est très, très, très beau. Donc, Miracle en Alabama en DVD et Aujourd'hui Rien en salle mercredi.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne, Éric Nehoff et Pierre Murat, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir. Au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique, et je les remercie, il y avait Stéphane Desmond, Nicolas Depagraf et Mathieu Leroux. La réalisation a été signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 2 mai. Je vous attends nombreux au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.